bonjour et bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, il occupe un ministère régalien. Il connaît mieux que personne les enjeux diplomatiques et géopolitiques contemporains. Et une heure pour revenir avec lui sur les relations avec les États-Unis de Joe Biden, sur l'espoir d'un nouvel ordre international, sur l'affaire Navalny aussi et ce qu'elle dit du pouvoir russe aujourd'hui. Il sera également question dans l'émission, évidemment, de ce que certains appellent aujourd'hui la diplomatie du vaccin. Question politique est en direct avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pour intervenir, l'appli France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Paul.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine Bécard de France Inter qui a préparé votre portrait. Jean-Yves Le Drian, nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Aidez-nous à comprendre, monsieur le ministre, puisque vous êtes à l'intérieur de la machine de l'État. Vous avez sûrement vu les deux unes de la presse nationale ce matin, celle du journal de dimanche, avec ce grand titre « Reconfinement imminent » et celle du Parisien aujourd'hui en France. Olivier Véran veut rassurer les Français. Laquelle des deux est juste ?
La situation est grave. Les faits sont là. 72 000 morts depuis le début de la pandémie en France. 400 000 morts en Europe. Les chiffres sont là et l'évolution de la pandémie, malheureusement, avec l'arrivée des variants, n'est pas positive, loin de là. Avec ce sentiment qu'ont, je pense, tous les Françaises et les Français d'avoir fait beaucoup d'efforts,
oui,
et de voir la ligne d'horizon reculer en permanence avec une illisibilité sur la suite, ce qui rend parfois, nous donne un moral
de notre part ou même de la vôtre.
De virus, personne n'a la lisibilité sur le virus. Vous n'en avez pas non plus.
Non, mais
comment
vous...
ça serait intéressant. Mais non, personne, parce qu'on pensait arriver à la fin d'un processus, et puis là, on voit qu'avec les variants, les difficultés renaissent, et il n'y a pas non plus d'exception au niveau européen.
Et vous devez prendre des décisions.
Et donc, il faut lutter. Il y a une course de vitesse contre le coronavirus, contre ces variants, une course de vitesse qui est engagée. Il y a eu des adaptations qui ont été prises il y a peu de temps pour généraliser le
couvre-feu
à 18h, et puis tous les mercredis, en fonction des résultats, des indications que nous avons par la communauté scientifique, par les chiffres qui nous remontent, par les propositions du ministre Olivier Véran, du Premier ministre, eh bien, le président de la République prend des décisions.
Donc si on vous dit reconfinement imminent, Jean-Yves Le Drian, vous nous dites oui, peut-être.
Non, je ne sais pas.
Non, je ne sais pas, mais peut-être.
Je ne sais pas. C'est une option parmi d'autres.
Nathalie Saint-Cricq.
Il y a quelque chose qui semble également illisible, c'est la pénurie de doses. On apprend ça tous les jours, qu'AstraZeneca, ça sera moins 60% produit, que Pfizer, il y en aura moins. Qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a pris des vaccins qui étaient pas chers ? Est-ce qu'on les a commandés trop tard ? Et est-ce qu'on est dans la main des laboratoires ? Ce qui est exactement l'impression qu'on a.
Jean-Yves Le Drian.
D'abord, on a la chance d'avoir le vaccin.
D'accord, mais si on ne peut pas se vacciner, le fait de l'avoir...
Je pense qu'il faut quand même le redire. Il y a quelques mois... Moi, j'ai rencontré le directeur général de l'OMS au début de la pandémie. On nous disait, les personnages les plus compétents en la matière nous disaient, mais un vaccin, vous n'y pensez pas, ça prend énormément de temps. Et on s'interrogeait sur comment agir sur les traitements, parce que les vaccins, c'était un horizon très, très lointain. Puis là, nous avons des vaccins. Alors, la nouveauté est quand même très considérable, et pas uniquement un laboratoire, mais plusieurs laboratoires. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a bien fait d'anticiper, de sécuriser la capacité de mobilisation des vaccins, puisque nous avons sécurisé près de 2 milliards 400 000 doses qui seront à notre disposition.
C'est ça la question.
Mais après, il faut produire. On a trouvé, il faut produire.
Mais les Anglais,
il y a quelques temps,
on
disait, il n'y a pas de vaccin. Il y en a. Maintenant, il faut les produire. Et on a bien fait de nous adresser à différents laboratoires pour pouvoir être sécurisés davantage. Et si l'un faisait fausse route, eh bien, on pourrait se reposer sur l'autre. Donc voilà quelle est la réalité. Et maintenant, il faut effectivement vacciner avec ces vaccins. Et certains vaccins, comme vous le savez, nécessitent une logistique assez particulière pour rester à un niveau de froid très important.
Mais nous sommes tenus par les grands laboratoires,
parce qu'il y a des engagements.
Monsieur le ministre.
Il y a
Pfizer,
des engagements, ils doivent être tenus. Pfizer,
avons-nous les moyens? C'est autre chose.
AstraZeneca n'est pas encore validé.
Mais
Pfizer et Moderna.
Avons-nous les moyens juridiques pour contraindre ces laboratoires ou ces grandes multinationales pharmaceutiques à respecter les délais de livraison?
Je crois que Charles Michel a été clair tout à l'heure chez un de vos confrères, le président du Conseil européen, disant que si d'aventure il n'était pas au rendez-vous, eh bien à ce moment-là, on prendrait les moyens juridiques pour que les contrats soient respectés. Mais il y a des explications, il y a un retard, Pfizer avait annoncé 6 semaines, maintenant c'est plus qu'une semaine, tant mieux, mais il faut que les laboratoires, dans la mesure où ils ont été contractés par l'Union européenne, respectent leurs engagements, parce que il y a une initiative forte, qui nous a d'ailleurs permis d'être plus sûrs, d'être plus sécurisés, d'être moins chers, d'être alimenté par différentes sources, parce qu'on est sur un parcours qui va durer un certain temps pour vacciner l'ensemble des Européens, mais il y a la commande permettant de vacciner l'ensemble des Européens, ce qui est une bonne chose, c'est un plus. Après, on se les partage au prorata de la population.
Françoise Fressoz, puis Karine.
On s'est beaucoup réjoui au début de voir l'Union Européenne, au fond, faire corps pour aller acheter des vaccins et les répartir dans les pays. Et puis, on s'aperçoit que vendredi, la Hongrie fait cavalier seul, annonce qu'elle va acheter des doses de vaccins russes. Et donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ces cavaliers seuls de chaque État devant une sorte de crainte de pénurie et de peur de manquer au moment où tous les virus et les variants arrivent?
Jean-Yves Le Drian. D'abord, à ma connaissance, mais je ne suis pas le spécialiste, c'est vrai, mieux interroger Olivier Véran sur ces sujets-là, mais à ma connaissance, seul le vaccin Pfizer est reconnu aujourd'hui par l'Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd'hui. Par ailleurs, au niveau européen, l'Agence européenne du médicament permet de délivrer les vaccins et de diffuser les vaccins en Europe que pour 2 laboratoires, Pfizer et Moderna. Donc la Hongrie prend des responsabilités particulières. C'est à eux de juger. Dans la réalité d'aujourd'hui, c'est cela. Il y a un problème de sécurité. Il faut que les Européens soient rassurés lorsqu'ils sont vaccinés. Il y avait une telle réserve à l'égard des vaccins qui a disparu brutalement depuis que le vaccin est arrivé. Bon, tant mieux. Mais il faut maintenant être sûr du diagnostic et être sûr de la qualité du vaccin qu'on diffuse. Autrement, ça serait irresponsable.
Karine Bécard.
Alors, il y a la question des vaccins, évidemment. Il y a la question des frontières aussi. On en entend là de plus en plus parler. La France semble avoir envie de durcir sa politique aux frontières. Elle exige désormais des tests PCR. Face aux souches mutantes du virus, dont on parle maintenant depuis le début du mois de janvier, est-ce qu'on n'a pas quand même perdu un petit peu de temps avec notre politique aux frontières? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des décisions plus rapides?
Est-ce que vous savez,
Jean-Yves Le Drian,
je crois que tout le monde l'a oublié, que les frontières hors Europe sont fermées depuis le 18 mars de l'année dernière. Sauf pour les Français qui reviennent. Mais aujourd'hui, vous êtes brésilien, vous voulez venir en France ou en Europe, vous ne pouvez pas. On a oublié qu'on avait fermé collectivement les Européens les frontières hors Europe depuis le 18.
Donc on apprend aujourd'hui que les liaisons entre la France et le Brésil vont être interrompues. En fait, vous dites elles sont déjà interrompues.
Non, elles ne sont pas interrompues, mais vous ne pouvez pas voyager dessus. Quand vous êtes brésilien, si vous êtes français, vous revenez.
Si on est français, on peut y
aller. Si vous êtes européen, vous revenez. Mais protection des frontières, elle est acquise depuis déjà très longtemps, sauf quelques exceptions qui sont dûment constatées par nos propres consulats, pas uniquement.
Faut-il aller plus loin et faire comme les Belges,
interdire aux Français
de se déplacer à l'étranger uniquement pour des raisons professionnelles ou de santé?
Je n'ai pas fini, je vais jusqu'au bout du déroulé. La nouveauté, elle est double depuis maintenant le dernier Conseil européen qui s'est tenu la semaine dernière. Elle est double d'une part parce que le Royaume-Uni maintenant est hors Europe. Mm-hmm. Donc ce principe d'interdiction, les frontières sont fermées, sauf exception de retour des résidents européens, des Français sur leur territoire, plus quelques exceptions rares. Et la nouveauté, deuxième nouveauté maintenant, c'est que maintenant il faut un test PCR.
Négatif.
Avant de prendre l'avion,
oui.
Une septaine en arrivant et un test PCR à la fin de la septaine. Voilà la nouveauté qui est extrêmement contraignante et qui fait que cela va s'appliquer.
Et si on prend le train et la voiture, Monsieur Le Drian.
Non, ça c'est pour hors Europe.
Alors, je vous parle de l'Europe, moi.
Il faut bien clarifier. Avion. Vous aviez oublié que hors Europe, c'était interdit depuis le 18 mars l'année dernière.
Intra-Europe.
Si. Parce que personne n'en parlait.
Mais c'est pas ce que dit le maire Christian Estrosi, par exemple, à Nice, qui dit que sa frontière avec Monaco fait que, en permanence, il a
dit
des gens
hors Europe,
qui... Des étrangers qui rentrent sur son territoire, mais qui visiblement lui pose un problème à lui.
Maintenant, en ce qui concerne l'intra-européen, des mesures de durcissement ont été prises. Le principe de base, c'est qu'il ne faut plus voyager. Et la recommandation que fait le ministère des Affaires étrangères à cet égard, c'est qu'il est strictement recommandé de ne pas se déplacer.
Irez-vous jusqu'à faire comme les Belges, interdire les voyages à l'étranger, sauf pour des raisons professionnelles ou sanitaires?
Si vous allez à l'étranger, il faut le faire vraiment pour des conditions extrêmement impératives, et de toute façon, en vous faisant tester, en faisant un test PCR, Et quand vous allez prendre l'avion, quand vous allez prendre le bateau, il vous sera demandé à l'entrée.
Et quand on prend le train et la voiture,
faites un test PCR.
Mais faites, mais je ne suis pas obligé, je ne serai pas contrôlé.
Est-ce que vous pouvez, dans l'état actuel des choses, c'est ce principe-là. Peut-être que
mais
ça peut évoluer.
Mais pourquoi on ne contrôle pas tout?
Mais aujourd'hui, le principe, c'est on ne voyage pas. Ne voyagez pas, sauf si y a un mort dans votre famille qui habite le Luxembourg ou un autre pays. Mais autrement, ne voyagez plus. On arrête.
On a eu l'impression que la France, par rapport à d'autres partenaires, notamment l'Allemagne, était très rétive à prendre des mesures assez coercitives de non-déplacement. Est-ce que c'est pour sauver le marché, la libre circulation, ou c'est parce qu'au fond, on se considérait moins atteint que les autres pays?
L'Allemagne est dans la même position que nous.
Je
me suis entretenu avec mon collègue allemand il y a deux jours. Nous sommes sur la même position. On ne voyage plus. Et on prend des mesures restrictives pour la vie quotidienne, telles que nous le prenons ici en France pour les contraintes de couvre-feu. L'Allemagne en a pris des mesures beaucoup plus drastiques d'ailleurs depuis quelques temps. Et on se tient comme cela. Donc on ne voyage plus.
Deux questions rapides, Jean-Yves Le Drian, avant de passer à la suite. Première question, il y avait un dispositif mis en place par l'Union européenne pour pouvoir donner des vaccins aux pays en voie de développement. Quand on voit qu'il en manque ou qu'il peut y avoir des retards de livraison pour les citoyens de l'Europe, qu'est devenu ce projet et cette promesse qui avait été faite au moment de la commande des vaccins?
Il y a d'abord quelques difficultés pour transférer les vaccins Pfizer dans des pays lointains, dans des pays très chauds, en raison des contraintes logistiques que vous connaissez. Mais pour le reste, et dans la suite de l'approvisionnement en vaccins...
La promesse sera tenue.
Les engagements financiers sont là, sur la table. Ce qu'on appelle le dispositif COVAX, ou le dispositif Gavi, selon les cas... Pour la distribution, c'est Gavi, pour le financement, c'est Covax, va permettre de mobiliser des vaccins pour le distribuer dans les pays les plus à risque. Le montant financier de tout ça, c'est 2 milliards d'euros. L'Europe y a contribué à hauteur de 1 milliard, c'est d'ailleurs assez considérable. Parce que de toute façon, c'est pas uniquement une question de solidarité, c'est une question de solidarité, mais c'est une question d'efficacité. Tant qu'on n'aura pas éradiqué le vaccin, on sera toujours à l'abri. Il faudra restreindre les voyages. Donc, il faudra à terme que l'ensemble de l'humanité soit vaccinée.
Deuxième question, est-ce qu'il y aura besoin d'établir un passeport vaccinal, rapidement? Même si ce ne sont pas les États qui le font, est-ce que ce ne seront pas les compagnies aériennes
multinationales qui l'imposeront? D'abord, il y a des questions d'efficacité. On ne sait pas encore si les vaccins, on sait qu'ils nous protègent nous, mais on ne sait pas s'ils permettent de bloquer la diffusion du corona. Ce n'est pas certain encore, premièrement, donc il ne faudrait pas se rassurer à bon compte. Deuxièmement, il y a une question de discrétion aussi, sur le fait que ce sont des données personnelles qui seraient ainsi sur un passeport particulier. Et puis, il y a aussi des problèmes d'égalité. Maintenant, vous avez été vacciné, vous pouvez voyager, les autres ne peuvent pas voyager, etc. Donc, pour l'instant, à mon avis, c'est prématuré.
Mais en même temps, il y a le secteur touristique à sauver. Oui. C'est ce que dit la Grèce, c'est ce que dit l'Espagne, c'est ce que pourrait dire le Portugal, c'est ce que pourrait dire la France aussi.
Tel que c'est aujourd'hui, ça nous semble prématuré, même si la question mérite d'être posée.
Vous voyagez beaucoup, vous devez voir beaucoup de pays. Le chef de l'État considérait que les Français, c'était 66 millions de procureurs. Est-ce que vous considérez qu'on est pire que les autres? Est-ce que cette expression était heureuse?
Jean-Yves Le Drian.
Oui, moi, je comprends vraiment la lassitude des Français, leur impatience, parfois leur détresse, souvent ceux qui ont des victimes dans leur famille, parfois le bord de la déprime pour certains, je pense aux étudiants. Et donc, ils sont exigeants dans cette période. D'autant plus que, ce que je disais en commençant, on a le sentiment que l'horizon recule au fur et à mesure que l'on avance. Oui. Ils sont exigeants, donc ils râlent. Bon, mais ils sont inquiets et donc exigeants. C'est vrai en France, mais c'est vrai ailleurs.
Donc, il faut mieux être plutôt tendre avec eux
Je comprends cette irascibilité, je comprends ces interrogations, je comprends cette lassitude. Et en même temps, on n'a pas d'autre solution que de se tenir les coudes et de combattre ensemble la diffusion du coronavirus.
Donc vous comprenez les 66 millions de procureurs la susceptibilité du président de la République.
Qu'il peut y avoir de l'énervement, mais il faut qu'on se garde tous notre calme et qu'on se batte ensemble, parce que c'est un challenge considérable. Nous n'avons jamais connu ça depuis la guerre 39-45. Ce n'est pas propre à la France, c'est la même chose ailleurs. Donc soyons solidaires
au
niveau européen.
Donc vous dites qu'Emmanuel Macron aurait dû faire preuve d'un peu plus de compréhension vis-à-vis des Français.
Non, je comprends que le président puisse parfois s'interroger sur le fait qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'ampleur des efforts qui sont déployés par l'exécutif, par le gouvernement, par lui-même, la détermination qui nous anime, la volonté d'aboutir dans un combat qui est terrible. Et que chacun comprend et qu'on voit ailleurs.
Françoise Fressoz, puis votre portrait, Jean-Yves Le Drian.
Vous pointez l'état psychologique du pays, c'est à la fois la lassitude des Français. Est-ce que vous craignez des mouvements de désobéissance civile si, par hasard, on était obligé de reconfiner de façon très forte? Et est-ce qu'au fond, la riposte du gouvernement est maintenant indexée aussi sur ce que les Français sont en capacité de d'admettre?
La riposte du gouvernement, elle est en fonction de l'état d'avancement de la diffusion du coronavirus pour sauver des vies. Le sujet, c'est de sauver des vies et éviter qu'il y ait une accélération de ce que l'on constate aujourd'hui. Voilà quelle est la réalité. Ceci dit, moi je trouve, François Fressoz, que les Français ont été disciplinés.
Jusqu'à présent, oui.
Ouais, mais plus qu'ailleurs. Peut-être plus râleurs qu'ailleurs, mais plus disciplinés qu'ailleurs. Et ça, c'est assez formidable.
Midi 20, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est notre invité.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait, monsieur le ministre, il est signé Karine Bécard.
Vous êtes ministre depuis presque 9 ans, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères du président Macron, après avoir été ministre de la Défense de François Hollande. Mais au-delà de ces fonctions, Jean-Yves Le Drian, qui sont éminemment importantes, le vrai combat politique que vous avez résolument gagné, c'est en Bretagne en réalité que vous l'avez livré. 20 années d'un travail acharné pour que votre région puisse devenir socialiste, 20 années pour la faire basculer donc et pouvoir la présider. En 2004, quand vous l'avez emporté, vous avez, comment dire, sacrément savouré. Vous aviez 57 ans déjà et votre carrière aurait quasiment pu s'arrêter là. Vous, Jean-Yves Le Drian, qui étiez resté sans discontinuer 18 ans le maire de Lorient, député du Morbihan pendant près de 23 ans, élu la toute première fois quand Valéry Giscard d'Estaing était encore président. Septembre 1979, vous avez 32 ans seulement et votre ton à la télé est étonnamment assuré.
Il faut tenter de changer la manière de fonctionner des hommes politiques. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire. Je suis assez frappé de la rupture qui existe aujourd'hui, en particulier alors cet automne, entre ce qu'on appelle couramment la classe politique et la vie quotidienne des gens.
C'est fou, vous en parliez déjà. 46 ans d'un si long parcours politique, Jean-Yves Le Drian, et le fossé que vous décrivez si justement n'a jamais cessé de se creuser. Mais 1979, c'est aussi l'année qui vous fait rencontrer François Hollande. Le début d'une très solide fidélité entre un énarque et un agrégé d'histoire. Comme lui, vous êtes modérément mitterrandiste et surtout comme lui, vous deviendrez un deloriste. Ensemble, vous lancez un club, les Transcourants, qui soutient Jacques Delors et qui se réunit à Lorient. Et c'est aussi à Lorient, bien plus tard, que François Hollande a fait officiellement débuter sa campagne. À l'époque, il était à 3%, sa campagne pour devenir président. Une jolie marque de confiance, enfin d'amitié, en somme.
Ça ne suffit pas, l'amitié. Elle est un élément tout à fait pertinent pour les relations personnelles. Elle n'est pas un élément constitutif d'un choix politique.
Ça ne suffit pas l'amitié en politique. Le propos peut sembler sévère, mais peut-être vous a-t-il permis, Jean-Yves Le Drian, de quitter plus facilement François Hollande en 2017 pour rejoindre celui qui l'a trahi. Emmanuel Macron a fait de vous son ministre des Affaires étrangères et pas son ministre de la Défense, malgré votre incroyable talent de fin négociateur de rafale.
J'ai un principe de base, la discrétion et la permanence de l'action.
On parle de contrat du siècle pour ce contrat avec les Émiratis.
Discrétion, permanence de l'action.
60 avions, tout ça, non ?
Discrétion.
Discret, taiseux, secret, tout cela n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron. Mais comment pouvez-vous accepter, Jean-Yves Le Drian, vous qui avez refusé par 2 fois les avances du président Sarkozy, comment pouvez-vous accepter de vous retrouver aujourd'hui dans un gouvernement dirigé par l'un de ses anciens conseillers ?
Réponse, Jean-Yves Le Drian.
J'ai compris dans ce que vous venez de dire que je faisais partie un peu des meubles. Ceci étant, concernant ma relation avec François Hollande, j'ai eu pour lui beaucoup de considération, beaucoup d'estime. Il a été un président courageux,
Vous parlez au passé.
Non, bah, sa présidence est au passé. Ou alors je suis pas au courant de l'actualité. Mais il a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait ou pouvait faire. Je l'ai déjà dit ici.
Oui.
Je vous le redis. Parce que depuis le départ, il a été confronté au mouvement des frondeurs qui ont méthodiquement saboté son action jusqu'à déposer une motion de censure contre lui. Ça n'a pas abouti, heureusement, jusqu'à l'obliger à aller à une primaire, ce qui était inconcevable, et jusqu'à l'obliger à ne pas se représenter. Et moi, je suis resté avec lui jusqu'à un mois avant le premier tour des élections présidentielles. Et j'ai vécu comment le Parti Socialiste, sous l'impulsion de ses frondeurs, était en train de se disloquer de l'intérieur. Et c'est la fin du quinquennat Hollande. Donc, naturellement, dans l'enjeu qui se présentait à ce moment-là, j'ai soutenu Emmanuel Macron, je suis loin d'être le seul, pour qu'il puisse mener l'action réformatrice de la France. Ça n'empêche pas aujourd'hui que je garde une grande considération et affection à l'égard de François Hollande.
Jean-Yves Le Drian, rentrons dans le dur des sujets chauds que vous avez sur votre bureau et notamment évidemment les relations avec la Russie. Depuis l'arrestation d'Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, revenu il y a une semaine maintenant à Moscou. Navalny arrêté, placé en détention jusqu'au 15 février, des multiples procédures judiciaires à son encontre et puis des manifestations dans de très nombreuses villes de Russie. Hier, au moins 65 villes pour exiger la libération du principal ennemi du Kremlin avec des centaines d'arrestations. Question de Nathalie Saint-Cric.
Oui, on en est à 3500 arrestations. Ouais. Manifestement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il n'y a rien à faire avec le régime de Vladimir Poutine, sauf dire que c'est pas bien et dire qu'on souhaiterait qu'il soit libéré?
Jean-Yves Le Drian.
Ce qui a été
d'abord,
dit par
d'abord, je trouve cette dérive autoritaire très inquiétante. Je trouve que la remise en cause de l'état de droit par ces arrestations-là, collectives et préventives, est insupportable. Je trouve aussi que le succès des manifestations au pluriel sur l'ensemble du territoire russe est impressionnant.
Qu'est-ce que ça traduit selon vous ?
L'affaire de Navalny ne date pas d'hier. Elle date du mois d'août dernier. Et nous avions dit à l'époque, et je le redis encore aujourd'hui, à l'égard des autorités russes, qu'il faut que toute la lumière soit faite sur l'affaire Navalny.
Au moment où il a été empoisonné et hospitalisé en Allemagne, à Berlin.
J'avais dit ça, même je crois ici, sur vos antennes. Le fait qu'il ait été empoisonné, c'est une tentative d'assassinat. Ça se fait avec un produit qui est un produit russe, le Novichok.
Internationalement interdit.
Internationalement interdit et produit en Russie. Se fait en Russie par un produit chimique russe sur une personnalité russe. Donc il me paraît normal qu'il y ait une enquête qui soit menée, oui. Une clarification,
Vladimir
une transparence.
Poutine
je le redis, je le redis aujourd'hui en me disant, mais finalement, je me posais la question. Finalement, si d'aventure il y avait une clarification, une transparence sur le sujet, peut-être que ce mouvement ne se serait pas produit hier. Mais ils ont voulu, je crois, les autorités russes, avoir une position de déni sur la réalité. Ceci étant aussi, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons pris des sanctions. Nous avons pris des mesures contre l'environnement, y compris contre l'environnement du président Poutine.
Au trimestre dernier,
l'ensemble européen, parce que des mesures de ce type peuvent être prises qu'au niveau européen, ont été prises pour interdire de voyage, gel des avoirs d'un certain nombre de personnalités.
Un certain nombre de dignitaires russes.
Oui, tout à
mais
fait.
Le Kremlin accuse Washington d'ingérence. Il ne prend même pas la peine de qualifier la position de l'Union européenne.
Je n'ai pas commenté la manière dont le président Poutine gère la situation actuelle en Russie. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est une dérive très préoccupante et qui remet un peu en cause la volonté de confiance et de sécurité qu'on peut avoir à l'égard de la Russie. Il y avait eu une initiative qui avait été prise à Brégançon fin août 2019.
C'est fini.
Bah, c'est pas fini, mais ça avance pas beaucoup.
Oui, mais donc ça veut dire que la Russie reste une interlocutrice, que Vladimir Poutine reste un interlocuteur à la France et à l'Union européenne.
Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que malgré tout, la Russie va pas déménager. Malgré tout, la géographie est têtue. La Russie est notre voisin. Et nous avons des questions de sécurité et de confiance. Et nous sommes obstinés pour trouver le moyen de faire en sorte que des formes de discussion puissent avoir lieu, tout en étant extrêmement clair et extrêmement ferme sur les dérives autoritaires.
Mais il y a eu l'Ukraine, il y a eu la Crimée, oui, il y a eu la Géorgie, je ne vais pas faire toute la liste, Jean-Yves
Le
Drian.
Mais la Russie ne déménagera pas.
Il y a les vidéos mises en ligne par Navalny qui montrent la fortune et ce château absolument sidérant de qu'aurait Vladimir Poutine. Ce que nous avons, ce sont nos larmes pour pleurer.
Non, les sanctions, on les a prises.
Alors il y a les sanctions,
demain il y aura une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui sera amenée à parler de ça aussi.
Mais d'abord, est-ce qu'il faut renforcer les sanctions? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous dites sur le gazoduc Nord Stream 2 qui, au fond, pourrait être aussi un moyen d'interrompre les travaux, ça pourrait être aussi un moyen de pression de dire à la Russie, on n'est pas d'accord.
Cette question s'adresse plutôt à l'Allemagne.
Oui, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à convaincre l'Allemagne.
Je laisse l'Allemagne répondre.
D'accord. Et sur les sanctions, est-ce qu'on peut envisager
Sur les sanctions, il faut les rendre opératoires réellement et la discussion sur ce point aura lieu demain au niveau du Conseil européen.
Demandez-vous la libération immédiate d'Alexei Navalny?
Depuis longtemps. On demande qu'il soit libéré et on demande qu'il ait la clarté sur sa tentative d'assassinat. Il y a eu une tentative d'assassinat. Dans un pays de droit, on essaie de savoir comment se fait-il qu'il y a eu une tentative d'assassinat.
Toute petite précision, est-ce que vous considérez qu'il a pris des risques démesurés en rentrant en Russie ou est-ce que vous considérez qu'il a joué son rôle d'opposant au péril de sa vie?
Je pense que cette démarche mérite beaucoup de respect. Il a l'audace de ses actes. C'est sans doute lui qui doit être le plus satisfait de la journée d'hier.
Paradoxalement, malgré l'arrestation de ses soutiens. Paradoxalement.
Je ne parle pas des arrestations qui préventives et collectives qui sont absolument insupportables. Je parle de
l'ensemble du mouvement
qui s'est manifesté hier. C'est quand même assez impressionnant.
On a regardé vers
l'est. Surtout qu'il faisait très froid.
Oui, apparemment avec des manifestations même dans des villes où il faisait moins 50. Si on regarde vers l'ouest, vous avez évidemment assisté, comme nous, Jean-Yves Le Drian, au spectacle mondial de l'investiture de Joe Biden. C'était très impressionnant et particulièrement fort de l'entendre parler, d'insister sur l'unité d'un pays dont on se disait qu'il était profondément déchiré. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Voir l'investiture du président Biden ou voir les images du président, de l'ex président Donald Trump monté dans Air Force One pour la dernière fois sur le son de My Way de Frank Sinatra?
Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est le discours de Joe Biden. J'étais très frappé par la dignité de ce discours et par sa gravité. Et aussi par le rappel à de nombreux passages de ce texte de la nécessité de préserver la démocratie. Parce que c'est quand même ça le sujet. Les États-Unis, très vieille démocratie, a failli être victime d'une insurrection populiste, alimentée par des fake news, alimentée par des fausses informations, par une viralité qui, d'une certaine manière, entretenait une réalité artificielle pour une partie des populations qui pensaient que c'était vrai. C'est-à-dire que je pense qu'une partie des Américains ont vécu dans l'idée que l'élection leur avait été enlevée, alors que la réalité des faits n'était pas celle-là.
Et ils le pensent toujours, ils ont malgré tout été 74 millions à voter pour Donald Trump.
Oui, ils ont été 74 millions à voter. Mais bon, et donc, ça m'a beaucoup frappé, cette détermination, cet appel à l'unité, et puis aussi le fait que dans ce discours-là, il a évoqué les problèmes liés à l'information.
Oui, dans son premier discours, le premier après avoir prêté serment.
Aux manipulations de l'information, à la nécessité d'établir les vérités, au combat collectif contre le mensonge. C'est quand même une grande première. Et c'est ça qui était, à mon avis, le plus impressionnant pour moi, en écoutant ce discours.
François Fressoze.
Est-ce que vous pensez que c'était une leçon pour toutes les démocraties aujourd'hui un peu fragilisées? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que, à partir de ce discours-là, il peut y avoir des actions effectives pour essayer, au fond, de contrôler davantage les réseaux sociaux? Est-ce que c'est souhaitable?
Jean-Yves Le Drian.
Bien évidemment, au-delà de ce qui s'est passé aux États-Unis, ce sont toutes les démocraties qui peuvent se sentir fragilisées par ce qui s'est passé là. Et donc la nécessité de renforcer le fonctionnement démocratique des États qui le sont est tout à fait essentiel. Je crois que c'est un peu ce qu'il a derrière la tête en voulant provoquer un sommet des démocraties. Sans doute faut-il ensemble
concevoir le renouveau des démocraties, le renouveau de l'état de droit et le respect de nos concitoyens. En tout cas, si c'est ce challenge-là que les États-Unis veulent développer, nous sommes évidemment partie prenante. Mais on voit bien qu'en Europe aussi, on s'est soucié de ces dérives et de ces menaces.
Mais est-ce que quelque chose va changer, Jean-Yves Le Drian, dans l'ordre international? Est-ce qu'on restera dans l'ordre de America First avec Joe Biden? Est-ce que les Américains vont revenir dans le concert des nations, comme on dit? Est-ce qu'on peut imaginer davantage de multilatéralisme qu'il n'a pu être exercé ces dernières années sous la présidence Trump, notamment?
America First, ça a été America alone, l'Amérique seule. Ça a été le thème de l'Amérique première, ça s'est traduit par l'Amérique seule. Et pendant ce temps-là, beaucoup, dont les Européens, on a essayé de tenir les murs. À la fois de l'accord sur le climat, de l'accord sur l'Iran, des initiatives autour de l'OMC, du multilatéralisme. Bref, on a essayé de tenir les meubles. Maintenant, des espaces nouveaux se présentent.
Bah, des espaces nouveaux, ou est-ce que c'est le retour du leadership américain? Et si c'est le retour du leadership américain, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe ou c'est pas une très bonne nouvelle pour l'Europe et les dirigeants européens?
Il y a plusieurs observations dans ce que vous dites. Le renouveau, c'est que le multilatéralisme va reprendre sa marche. D'abord, les premières décisions prises par le président Biden sur le retour dans l'accord de Paris, puis c'est le moment. Oui. Il y a une grande urgence, parce que le rendez-vous, c'est Glasgow fin d'année. Ils reviennent, on va reprendre les discussions. Le fait qu'ils reviennent dans l'Organisation mondiale de la santé, dont ils étaient sortis, alors que c'est la seule organisation, elle a peut-être ses défauts, mais c'est la seule organisation au niveau mondial qui gère les problèmes de santé en pleine pandémie. Les États-Unis sont sortis de cette organisation, ils reviennent. Par ailleurs, on voit que sur les questions de sécurité, où il y avait un vrai sujet dont on ne parle pas beaucoup, avec les Russes, qui était le sujet de la régulation, qui est toujours le sujet de la régulation des armes stratégiques nucléaires.
Oui.
Le traité qui fait suite au traité START, qui s'appelle maintenant New START, et qui permet de réguler, de contrôler ensemble, entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, les armes nucléaires qui vont l'un, potentiellement l'un sur l'autre, venait à caducité là, au mois de février. Il vient de reprendre la volonté de discuter sur la suite de ce traité. Donc le jeu se réouvre sur des sujets qui étaient des sujets sur lesquels nous, Européens, nous avions essayé de
l'ordre
tenir les
murs. L'ordre du monde rétabli.
Alors, ceci étant...
Leadership ou pas ?
Ceci étant... ce ne sera pas une parenthèse, les quatre années. L'Europe, avec laquelle les États-Unis d'Amérique disent vouloir maintenant renouer tous les liens, la relation transatlantique, ne sera plus la même qu'avant. On ne va pas revenir quatre ans en arrière, nous semble-t-il.
Qu'est-ce qui change ?
Parce qu'entre-temps, peut-être indirectement, François Sosa, peut-être indirectement lié à Trump, pendant ce temps-là, l'Union européenne s'est assurée, l'Union européenne a grandi, l'Union européenne est sortie de sa naïveté. L'Union européenne a affirmé qu'elle pouvait, au niveau de la sécurité, commencer à avoir une posture. L'Union européenne a dit et indiqué que concernant les échanges commerciaux, fallait quand même pas abuser, que si les États-Unis mettaient des taxes, elle pouvait elle-même en mettre. L'Union européenne a affirmé que sur un certain nombre d'enjeux industriels majeurs, je pense en particulier au numérique, elle pouvait avoir sa propre souveraineté. Donc l'Europe qui est là maintenant n'est plus la même que celle qui existait il y a 4 ans, et Joe Biden va trouver une Europe différente.
Nathalie.
Vous avez laissé entendre il y a quelques jours que vous étiez assez inquiet à propos de l'Iran, en disant qu'ils étaient en train de se doter de leur capacité nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a l'air un peu bête comme question et un peu large. Qu'est-ce que vous attendez des États-Unis? Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire, sachant que vous dites que, d'une certaine manière, grâce à Trump, elle n'est plus la même qu'il y a 5 ans et qu'elle est plus puissante? Sur l'Iran, on fait quoi? On attend quoi?
Quand je disais tout à l'heure qu'on avait gardé les meubles, qu'on avait gardé les murs, ça concerne aussi l'accord de Vienne, pour qu'on appelle couramment le JCPOA. C'est-à-dire l'accord signé en 2015... qui permettait d'éviter la prolifération nucléaire et d'éviter que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire avec toutes les conséquences. Oui. Eh ben, il est toujours là.
Oui.
Oui, mais l'Iran a repris l'enrichissement du
l'accord est toujours là, mais parallèlement au retrait américain de 2018, les Iraniens ont progressivement détricoté les éléments
ils
essentiels.
Ils ont repris l'enrichissement de leur
uranium. Ils ont repris
l'enrichissement
à 20% et ils ont en situation de produire.
Est-ce qu'il faut lever les sanctions
de l'uranium métal?
Est-ce qu'il faut lever les sanctions dont ils sont les victimes de la part des États-Unis?
C'est une situation très dangereuse, hein. Parce que l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire aurait des conséquences géostratégiques considérables. Il faut trouver le chemin de revenir dans les accords de Vienne. Et cette déclaration va aussi en direction des Iraniens. Nous sommes dans une situation contraire de celle que voulait Trump. Mmh. Trump voulait la pression maximale pour éviter que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire.
Oui,
la
et réalité, aujourd'hui, c'est que avant toute chose, la levée des sanctions pour satisfaire ses obligations.
Avec la pression maximale, en fait, le résultat, c'est que l'Iran est pas loin de pouvoir se doter de l'arme nucléaire. Donc, il faut engager des discussions sur les bases de l'accord de Vienne, sur les bases du CPOA. Alors après, la question que vous posez, c'est qui commence? Bon, ça fait partie de la diplomatie.
Oui,
on verra bien comment tout ça va pour... Mais ce que je note, c'est la volonté américaine de réengager le processus, et c'est un élément de satisfaction, permettant de revenir aux engagements antérieurs, mais il faut que tout le monde revienne aux engagements antérieurs.
C'est-à-dire dont les Américains.
Oui, mais l'Iran aussi. Et il y a beaucoup de chemin à faire.
Françoise Fressoz.
Est-ce qu'une rencontre est déjà programmée entre Emmanuel Macron et Joe Biden?
Non, pas à ma connaissance. Je vais avoir
Anthony Blinken.
Oui, ça va se passer demain ou après-demain entre Anthony Blinken et moi-même. Il se trouve qu'Anthony Blinken est un francophile particulièrement remarquable, qui connaît bien notre pays et qu'il a à l'égard de la relation transatlantique à venir. Je pense, dans les premières déclarations qu'il a faites lors de son audition au Sénat, une posture qui nous permet de penser qu'on va renouer avec le multilatéralisme. Puisque le multilatéralisme, c'est aussi le respect des règles par les uns et par les autres, que ce chemin-là va être ouvert. Mais ça n'empêchera pas Anthony Blinken, que je connais par ailleurs depuis maintenant quelques années, que vous m'avez dit que je faisais partie des meubles. Ça n'empêchera pas qu'Anthony Blinken il défendra les intérêts américains.
Mmh. Évidemment.
Et qu'on ne va pas rentrer dans une période d'euphorie. Mmh. Mais dans un dialogue structuré, avec, je pense, non seulement pour chacun la volonté de préserver ses propres intérêts, mais aussi pour les uns et les autres dans la relation transatlantique, de prendre en compte l'ensemble des défis du monde et nos responsabilités en la matière. Donc je crois qu'on est dans une nouvelle phase.
Il nous reste justement une vingtaine de minutes, il nous reste à parler d'une autre superpuissance que nous n'avons pas mentionnée jusqu'à présent, qui est la Chine. En l'occurrence, avant de parler du Sahel, la question des relations avec la Chine, qui est toujours très compliquée, très tendue, Françoise Fressoz.
On a vu là que la Commission européenne avait divulgué un peu l'accord entre l'Union européenne et la Chine. Et en fait, on voit qu'il y a quand même pas mal d'interrogations. On se dit, est-ce que l'Europe s'est pas un peu trop précipité à conclure un accord avec la Chine alors que Biden n'était pas encore entré en fonction? Est-ce que c'est pas une mauvaise manière? Est-ce que c'est pas aussi, au fond, donner plus de puissance encore à la Chine? Comment vous réagissez à toutes ces critiques et comment vous défendez cet accord?
C'est quand même un peu du rattrapage, hein, parce que jusqu'à présent, au niveau européen, il y avait des ouvertures très très significatives qui étaient permises pour les investissements chinois. Là, c'est un accord sur les investissements. Nous obtenons dans cet accord à la fois plus d'égalité et plus de facilité pour les entreprises qui veulent s'installer en Chine. Il n'y a pas d'obligation.
Notamment l'accès au marché des services.
Oui, et puis pas d'obligation de transfert de technologie, comme c'était le cas auparavant, avec des ouvertures sur un certain nombre de secteurs, la possibilité d'être présent, de créer des filiales. Par exemple, la RATP pourrait créer une filiale maintenant en Chine.
Et pas d'obligation pour la Chine non plus de respecter les droits de l'homme, et notamment les droits des Ouïghours, Jean-Yves Le Drian.
J'y viens. Mais donc cet aspect-là est un aspect plutôt positif, et c'était une forme de rééquilibrage. Oui. Nous ne sommes qu'au début, hein. Mmh. Pour l'instant, il n'y a qu'un accord politique. Il faut ensuite que cet accord repasse devant le Parlement européen en particulier, mais qu'il soit validé aussi par l'ensemble des instances européennes. Et dans l'accord, il y a le respect des normes de l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire le renoncement au travail forcé en particulier, et ça s'adresse plus
mais
en
particulier... Mais ça ne réglera pas la question du travail forcé des Ouïghours dans la région du Xinjiang, par exemple.
Ça fait partie du paquet.
L'Élysée même dit que ça ne concernera pas cette situation spécifique.
Si, Mais si, le fait de renoncer, dans l'accord, la Chine renonce au travail forcé en signant les conventions de l'Organisation internationale du travail. Il faut donc être très vigilant pour la mise en œuvre de ces dispositions, en particulier dans le Xinjiang, à l'égard des Ouïghours, bien sûr. Ce n'est pas... Alors, maintenant, c'est la vigilance de la mise en œuvre. Peut-être que la Chine avait intérêt à ce que cette signature soit accélérée, mais comme c'était aussi notre intérêt à nous...
Et peut-être aussi l'Allemagne qui avait peut-être intérêt à défendre son industrie, qui a peut-être un peu plus pressé. On a senti que la France était peut-être pas aussi pressée que l'Allemagne sur ce sujet.
Il faut trouver un bon compromis avec les uns et les autres. Mais je pense qu'on a marqué un acte politique sur lequel il faut que nous soyons, par la suite, extrêmement vigilants, en particulier sur l'application des normes de l'Organisation internationale du travail contre le
travail. Mais ça veut dire qu'on se distingue des États-Unis qui, eux, sont en bataille frontale avec la Chine, ou est-ce qu'on a une voie particulière, une singulière ?
On ne met pas du tout la relation que nous avons avec la Chine à égalité avec la relation que nous avons avec les États-Unis. On n'est pas dans cette logique-là. Mmh. Nous avons avec la Chine des discussions sur un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes partenaires. Je pense par exemple à l'engagement sur le climat. On ne pourra l'atteindre que si on est partenaire avec la Chine, parce que c'est aussi son sujet. Bon, travaillons avec la Chine sur le climat, mais soyons fermes et très clairs sur le comportement de la Chine à l'égard des Ouïghours.
Jean-Yves Le Drian, vous êtes celui qui, à la tête du ministère de la Défense, a engagé les troupes françaises au Sahel. Vous étiez en pointe dans ce combat contre le djihadisme au moment où le Mali était en train de basculer. On est maintenant 8 ans après l'engagement de ces troupes françaises dans le cadre de l'OPEX la plus importante à ce jour.
Et 8 ans après, justement, Emmanuel Macron parle d'un ajustement des forces françaises au Sahel. Quelle est la nature de cet ajustement, à quel niveau et pourquoi ? Est-ce que finalement, c'est pas parce que cette opération est un puissant fond et qu'on n'en voit pas le bout et qu'on a de plus en plus de morts sans que ça, manifestement, ça fasse avancer les choses ? Et je le précise, toujours des morts français.
Non.
Beaucoup de morts français.
Malheureusement.
Je parle par rapport aux pays européens.
Il n'y a pas eu que des morts français et européens. Et il y a eu beaucoup de morts dans la MINUSMA, la Force des Nations Unies. Malheureusement. Donc il n'y a pas que des morts français. Bon, on ne va pas faire une comptabilité macabre. Mais sur cette question, d'abord, il y a eu une réorientation de nos engagements au moment de ce qu'on appelait le sommet de Pau, qui s'est divisé en ce qu'on appelle 4 piliers. Renforcement de la lutte contre le terrorisme, ça a donné des résultats, vraiment, au cours de l'année 2020. Renforcement des forces de ce qu'on appelle la force conjointe, c'est-à-dire la force qui réunit des éléments des armées des 5 pays du Sahel directement concernés. Renforcement de cette force, ça commence à donner des résultats parce que, bien évidemment, à terme, ce sont bien les forces africaines qui devront assurer leur propre sécurité. Il y avait troisièmement la volonté de faire en sorte que les États reprennent leur position sur l'ensemble de leur territoire, qui reconquièrent
la souveraineté sur tous les territoires,
y compris les territoires qui sont en partie sous le joug des groupes terroristes. Et le quatrièmement, c'était d'engager une démarche de développement suffisamment significative. Sur les 4 piliers de l'accord de Pau, le premier a donné des résultats, le second aussi parce que constate que progressivement ces forces armées commencent à se solidifier ensemble. Il importe maintenant de passer au troisième, au quatrième pilier qui ne sont pas suffisamment mis en avant. Et tout ça, ça va faire l'objet de discussions dans un autre sommet qui fera le point sur ce qui avait été engagé à Pau, qui se tiendra à N'Djamena au courant du mois de février. Moi, je pense qu'il faut une espèce de surge diplomatique. Pour faire en sorte que les États du Sahel prennent possession véritablement de leur souveraineté.
Alors en attendant, faut-il négocier avec les chefs djihadistes?
Absolument pas.
Les Américains l'ont fait avec les talibans, et c'était une bonne solution.
Par contre, il y a des groupes armés qui sont signataires de l'accord d'Alger, ce qu'on appelle l'accord d'Alger, la base de la résolution pacifique de ce conflit, elle existe. Il faut simplement la faire respecter par l'ensemble des acteurs. Et ce processus-là, malheureusement, n'a pas été suffisamment activé au cours des derniers mois.
On se désengage, on demande.
J'ai pas dit désengagement.
Non, j'essaie de comprendre. On demande aux pays concernés ou aux pays du Sahel de s'impliquer un peu plus.
C'est ce qu'ils font.
C'est ce qu'ils font, on leur demande encore plus. Et notre réajustement, c'est quoi, nous? Notre réajustement, c'est se retirer un peu plus, c'est un peu moins de soldats engagés. On est à plus de 5 000.
Nous avions dit, le président de la République avait annoncé à Pau un effort supplémentaire. Mmh. Et donc c'est la question qui est posée, c'est est-ce que l'effort supplémentaire va être maintenu ou pas? Mais l'objectif, si vous avez bien lu le discours du président de la République à Brest, en présentant ses vœux aux armées, l'objectif est toujours le même. On se désengage pas et on veut lutter contre le terrorisme.
Non, mais on a compris quand même qu'on enlevait quelques troupes.
On en a rajouté beaucoup, ça ne peut pas se faire séparément de la montée en puissance aussi de la force Takuba, qui est la force européenne d'intervention avec des forces spéciales.
Est-ce qu'on est en train de s'enliser quand même au Mali?
On est en train de se sécuriser.
Sécuriser.
C'est notre frontière sud. Si on laisse demain cette région aux mains des djihadistes, c'est notre propre sécurité, c'est la sécurité de ces pays. Nous avons un devoir de solidarité, mais c'est aussi notre propre sécurité.
Est-ce qu'il y a une bavure de l'armée française, Jean-Yves Le Drian? Parce que vous parlez de sécurité, il faut quand même aussi parler de ce que l'armée française aurait pu ou peut-être a fait sur place. Human Rights Watch demande qu'une enquête soit ouverte au Mali sur une frappe française. L'ONG de défense des droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une investigation après une opération qui aurait potentiellement conduit à la mort de 19 civils sur place. Est-ce que vous y êtes favorable?
Cette information est fausse. Elle a été démentie et par Madame Parly et par les autorités militaires françaises, mais aussi par les autorités maliennes, de manière très stricte. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet.
Donc c'est ni les Français ni les Maliens?
Si, on a frappé, mais on n'a pas frappé des civils. Il y a eu une opération qui a été menée contre des groupes de djihadistes, et ensuite il y a eu une information qui a été répandue par certains réseaux pour dire qu'il s'agissait d'un mariage. C'était un mariage armé.
Question de Nathalie Saint-Cric.
On va revenir un tout petit peu à la vie politique française. Une loi dite séparatisme initialement, puis laïcité, puis renforcement des principes républicains est en discussion. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir des mouvements anti-français dans un certain nombre de pays auxquels vous serez confrontés? Et je ne parle pas que des Américains qui n'ont pas l'air très bien de comprendre ce qu'on fait avec la loi laïcité. Est-ce que vous avez peur de réaction d'un certain nombre de pays musulmans?
C'est pas une loi contre l'islam.
Non, mais j'ai pas dit ça. Je vous demande si vous craignez
C'est une loi qui veut garantir la cohésion de la nation, qui veut essayer de faire en sorte que nous puissions relever deux défis que nous avons devant nous, à la fois le risque du séparatisme par un certain nombre d'extrémismes qui ne veulent pas accepter les règles de la République, les règles de la laïcité, tout simplement, et qui sont aujourd'hui sur les questions de liberté de conscience, sur les questions de l'école, en rupture. Et puis l'autre défi, c'est le défi de l'inclusion et de la bonne réponse à la promesse républicaine pour un certain nombre de catégories.
Alors, c'est
équilibré,
le texte ?
Donc, il faut mener c'est le discours des Mureaux du président de la République.
Mais est-ce que le texte est équilibré ? Beaucoup de l'aile gauche de la République En Marche considèrent qu'il y a plus de...
Moi, je trouve que sur les engagements pris, y compris sur les questions scolaires, y compris sur l'activation de mécanismes de soutien dans les quartiers, il y a vraiment un équilibre pour aboutir à ce que cette loi soit vraiment une loi de cohésion nationale. Alors, à l'égard de d'autres pays qui pourraient être interrogatifs, moi je constate d'ailleurs que il y a une charte de l'islam en France qui vient d'être signée par plusieurs organisations.
Oui, mais il y a un sujet qui vous concerne très directement, monsieur le ministre, en l'occurrence, c'est la formation des imams et la possibilité pour des imams étrangers de venir prêcher dans des mosquées en France, s'occuper de communautés. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce qu'il faut rompre absolument toutes les conventions qui existent avec des pays, notamment le Maroc?
Nous pensons que sur ce sujet, il faut qu'il y ait un imamat formé en France. Et nous sommes en discussion plutôt positive avec un certain nombre d'acteurs, dont les autorités marocaines, pour faire en sorte qu'il y ait un imamat propre à notre pays, pour éviter, c'est pas le cas pour le Maroc, mais ça pourrait être le cas pour d'autres pays, pour éviter que par ce biais, comme d'ailleurs par les cours de langue, il puisse y avoir une pénétration de pays étrangers qui pourraient, à un moment donné, aller infléchir tentations séparatistes que j'évoquais au début.
Mais vous ne souhaitez pas que des imams formés au Maroc viennent en France?
On peut avoir un contrat avec les autorités marocaines. Je me suis rendu au Maroc rencontrer le ministre des
Religions. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, puisque dans le discours officiel de la République, c'est « on en finit avec les imams étrangers », point.
Oui, mais on peut les former ailleurs.
Est-ce que le gouvernement...
possible avec le Maroc.
Est-ce que le gouvernement Karine fait Becker. Suffisamment pour les jeunes et pour les étudiants? On a entendu cette semaine Emmanuel Macron parler de deux repas chaque jour à 1 euro pour les étudiants, de chèques psy. Mais vous qui avez été militant à la GEC, à la jeunesse...
Il y a quelques années quand même.
Il y a quelques années, oui. Mais...
Rappelez-nous ce qu'est la GEC.
La jeunesse étudiante chrétienne. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est... Est-ce que vous trouvez sincèrement que c'est assez? Est-ce qu'il aurait fallu mettre en place quand même ce RSA pour les moins de 25 ans, pour les jeunes, juste le temps de la crise, là, qui est compliqué à passer
mais
pour eux.
Je crois que le message a été bien compris. J'imagine que pour les étudiants et pour les jeunes d'une manière générale, en ce moment, c'est très difficile parce que c'est l'âge de la fête, des réseaux sociaux, des relations sociales, de la convivialité, du lien qui ne trouve plus.
Mais là, je parle des petits boulots qui l'ont
mais
même
les
plus.
Petits boulots aussi. Et donc,
il reste 2 minutes 30.
Madame Borne est en train de réfléchir à la garantie jeune universelle, qui est un dispositif qu'elle pense va mettre au point dans peu de temps, parce qu'elle a annoncé cette initiative à la demande du président de la République il y a
peu de jours. Qui ne sera ni le revenu universel, ni le RSA pour les 18-25 ans.
Une incitation, un accompagnement pour l'accès à l'emploi, y compris avec des contributions financières.
Françoise Fressoze.
Serez-vous candidat aux élections régionales qui, en principe, se tiennent en juin?
Jean-Yves Le Drian.
Je n'ai pas changé d'avis. J'ai annoncé, il y a maintenant 2 ou 3 ans, que pour moi, le temps des élections était révolu. D'ailleurs, je peux en rajouter une autre par rapport à la description que vous avez faite de moi tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de mon histoire avec la Bretagne, que j'ai pas eu le temps de réagir sur mon enracinement dans cette région et la passion qui m'anime auprès d'elle. Mais il faut, à un moment donné, il y a un temps pour tout. Et donc il faut passer la main, et si les élections régionales ont lieu au mois de juin, je ne serai pas candidat.
Et qui soutiendrez-vous alors?
On verra.
Ah.
Je dis ça, parce que je suis convaincu, j'étais en Bretagne hier, je suis convaincu qu'il y a une forme d'agitation sur les élections régionales, pas d'ailleurs uniquement en Bretagne, qui ne correspond absolument pas à ce que pensent nos concitoyens aujourd'hui. C'est vraiment pas leur sujet. Leur sujet, c'est celui qu'on a commencé à évoquer au début de cette émission.
C'est humainement pensable. Évidemment. Humainement pensable, démocratiquement pensable, quand on voit que les Portugais votent aujourd'hui en plein.
Ah non, je pense qu'il est souhaitable que les élections aient lieu au mois de juin. Oui, mais c'est dans 5 mois.
Même si ça l'arrange pas.
Même si les Français sont déprimés, exaspérés, en l'occurrence, il faudra les voter.
Le sujet des régionales, c'est il faut un projet d'abord. Un programme, une ambition, des orientations. Et
bon,
puis,
mais
il faut rassembler autour de ce projet
ce
maximum
sujet.
De gens.
En revanche, il y a un sujet qui vous concerne de près, qui est le rapport remis par l'historien Benjamin Stora au président de la République cette semaine pour essayer de dépasser les conflits de mémoire, les questions mémorielles qui portent sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Il fait de nombreuses propositions, pas d'excuses, pas de lois, pas de grands discours. En revanche, le rapport Stora appelle à se préoccuper des essais nucléaire, des mines antipersonnelles. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes favorable? Est-ce qu'il faudra que l'État français ouvre ses archives?
Bon, on a déjà commencé à le faire, mais je trouve que ce rapport est un rapport très stimulant. C'est vrai qu'il fallait quitter la posture des discours. Il y a eu des discours à Alger, hein. Il y a eu des discours Chirac, il y a eu des discours Sarkozy, des discours Hollande, il y a eu des discours Macron. Mais maintenant, il faut passer dans une autre logique qui n'est pas un discours qui va dire on s'excuse, qui est un discours qui va essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue des mémoires croisées.
Et je vous dis, les propositions concrètes, il y a toute une série de questions,
je vais
donc
pas reprendre
celle des essais nucléaires.
Les essais nucléaires,
est-ce qu'il faut remettre aux autorités algériennes la liste complète des emplacements où sont enfouis des déchets contaminés?
Nous avons déjà une commission de travail sur les questions des déchets nucléaires en Algérie. Nous avons une commission de travail déjà sur les archives. Je pense que le président de la République a eu l'audace de provoquer ce rapport pour qu'on se mette tous sur les mêmes bases concernant les faits, et qu'on essaye, au lieu d'avoir des mémoires distinctes, de les faire se conjuguer avec toute une série de déclinaisons que vous avez évoquées en partie.
Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir été notre invité. L'émission se termine. Bon dimanche, Monsieur le Ministre. Merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et un grand merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Question Paul. À dimanche prochain.